là, quand vous avez vu qu'ils tombaient les uns après les autres. Après la deuxième bataille, l'arche est prise. Et lors de cette défaite, les fils d'Élie, ceux qui portaient l'arche, vont mourir. L'arche est prise. La belle-fille d'Élie va mourir en donnant naissance à un enfant qu'elle va appeler Ichabod, c'est-à-dire la gloire de Dieu est partie. Et Élie va mourir lui aussi. Donc c'est vraiment une fin tragique. Mais avec Dieu, vous savez que les histoires ne s'arrêtent jamais sur une tragédie. Dieu a toujours un plan pour la suite, heureusement. La gloire de Dieu était partie, on avait dit la dernière fois, mais pas parce que le coffre avait été capturé, hein, c'est clair. Eux, ils pensaient que le coffre où il y avait, vous savez, dans ce coffre, ce qu'il y avait, hein, il y avait les tables de la loi, il y avait le bâton d'Aaron qui avait refleuri, il y avait différentes choses, des pierres de quand ils avaient traversé le Jourdain à sec. Il y avait beaucoup de choses qui étaient des souvenirs de la puissance de Dieu. Et ils se disaient, voilà, tout est perdu puisque le coffre est pris. En fait, c'est l'inverse. C'est parce que la gloire de Dieu n'était plus là que le coffre a pu être pris. Et nous, souvent, on marche à l'envers, on pense aux objets, on pense aux symboles, c'est humain, mais c'est pas ça. Je pense qu'on l'a vu en Chine, quand Mao a interdit les églises, particulièrement les églises évangéliques, les églises non officielles, on aurait pu dire, ben la gloire de Dieu est partie. En fait, quand les portes se sont rouvertes, il y avait plus de chrétiens en Chine que quand les églises ont été fermées. Et je crois que c'est clair que la gloire de Dieu n'est pas liée à des bâtiments, elle n'est pas liée à des choses, mais à des personnes qui obéissent au Seigneur. Et la gloire de Dieu, elle était partie depuis longtemps. Depuis longtemps, Dieu n'était plus honoré. Alors, vous savez que dans la Bible, honorer, c'est donner du poids. Et depuis longtemps, on donnait plus de poids à la parole de Dieu. Sa parole était rare, mais ça gênait personne. Le symbole était là, dans le temple à Silo, c'était l'essentiel, hein. Et il faut faire attention qu'on ne tombe pas, nous aussi, dans ce genre de déviance. Hein. Il y a des églises, c'est bien, on est tant de milliers de chrétiens, c'est bien, on fait des grands rassemblements, etc. La gloire de Dieu n'est pas liée à ça. Le symbole était là dans le temple à Silo, ce qui fait que les apparences étaient sauves. En apparence, c'était le peuple du Seigneur. En apparence, ils avaient leur tabernacle. En apparence, ils avaient leur arche, donc ils s'en faisaient pas. Et la gloire de Dieu, pourtant, était partie. Malgré toutes ces choses qui était là. Et puis un jour, Dieu va ôter les apparences. Et on dit souvent hein, que le Seigneur commence par son Église. Et on le voit parfois, hein, Dieu secoue les églises. Il secoue les structures, il secoue toutes les choses auxquelles on attache de l'importance, parce qu'en fait, lui, il regarde au-delà des apparences. Il permet que l'ennemi découvre la réalité. Parce qu'avant, ça se voyait pas, ou ça se voyait que pour ceux qui étaient fidèles à Dieu, et comme ils étaient pas nombreux, ça gênait personne. En fait, il y avait en Israël à cette époque un souverain sacrificateur qui servait d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est pour ça que Jésus est devenu notre souverain sacrificateur. Mais il n'y avait plus beaucoup de relations vraies entre Dieu et les hommes. Ils avaient un temple à Silo où on venait adorer Yahvé, le Dieu unique, mais le peuple se gênait pas pour adorer toutes les autres idoles, pour faire comme les voisins, on va le voir tout à l'heure. Il y avait l'arche d'alliance, vous l'avez vu, ce coffre, symbole de la présence de Dieu. Mais les Israélites avaient rompu cette alliance depuis longtemps. Il y avait des sacrificateurs hein, pour assurer les sacrifices, les dons, le pardon de Dieu. Mais ces hommes, en fait, on l'a vu dans d'autres moments, ils volaient Dieu, ils s'engraissaient sur ce qui était réservé à Dieu. Et on a ce verset incroyable dans 2 Timothée 3:5 qui parle de gens ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Hein, souvent, moi, ce verset me vient ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et je crois qu'il faut faire attention, c'est pas vrai seulement pour les autres. On est tous en danger d'avoir les apparences de la piété, mais de renier ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force de notre piété, c'est notre relation avec le Seigneur. On peut garder les apparences. On peut garder les apparences, aller au culte tous les dimanches, aller aux réunions de prière, on peut faire des tas de choses, mais renier ce qui fait la force de tout ça. Parce qu'on est humain et on est fragile. On n'est pas meilleur que les autres. Et si on n'entretient pas notre relation avec Dieu sur une base régulière, on a exactement les mêmes risques que ce peuple d'Israël. Alors moi, je me souviens, quand j'étais petite, à l'école du dimanche, on avait à la fois l'école du dimanche et l'école du jeudi, donc on avait deux leçons par semaine. Et je me disais, mais c'est pas possible, ces Israélites, mais c'est pas possible, comment ils étaient têtus, comment ils étaient désobéissants. Quand j'étais petite, moi, je pensais que non, nous, les chrétiens, ça peut pas nous arriver. Hein. Mais bon, j'ai changé d'avis. À commencer par soi-même. Hein. Donc, l'arche est chez les Philistins. Alors, c'est un épisode un peu humoristique que les enfants ont très, très bien rendu. C'est un épisode qui va durer 7 mois. Hein. Un commentateur a écrit ceci, « La cabode, c'est-à-dire la gloire de Dieu, avait quitté Israël, mais elle cabodait les Philistins. » C'est-à-dire, elle s'appesantissait, elle faisait du poids sur les Philistins. Et c'est vrai. La gloire de Dieu, ce poids de Dieu, hein, était parti d'Israël, mais alors les Philistins, ils l'ont senti passer, hein, pour le dire vulgairement, c'est exactement ça. Comme tous les peuples païens de cette région, ça on le lit dans les livres d'archéologie, on prend les dieux des vaincus et on les place à côté du dieu des vainqueurs pour souligner la victoire de son dieu sur les dieux étrangers. C'était une coutume de tous les peuples de la région. Hein, on cassait pas les dieux des autres, on ne sait jamais, hein. J'étais superstitieux. Donc on récupérait les idoles des autres, ou c'est son dieu, et on le mettait à côté du dieu des vainqueurs, dans le temple, pour montrer que notre dieu était plus grand. Hein. Alors évidemment, pour les Israélites, c'était une horreur, parce que ça soulignait l'échec de Dieu, quelque part, de leur dieu. Et on soumet le peuple adverse, et en quelque sorte, on soumet le dieu vaincu au dieu vainqueur, qui était Dagon, dans ce cas présent. Dagon était adoré dans cette région depuis près de 2000 ans. Oui, c'était pas récent. Il va se retrouver, comme vous avez vu, face contre terre, devant le coffre de Dieu. Personne ne l'avait fait tomber, là. Charles a été obligé de se cacher derrière, mais dans la réalité, il est tombé tout seul. Hein. Il va se retrouver face contre terre devant le coffre de Dieu, ce qui fait que le Dieu vaincu va battre le Dieu victorieux à leurs yeux. Et quand ils sont rentrés dans le temple ce jour-là, j'imagine le choc, parce qu'elles étaient solides, leurs statues. C'était pas du polystyrène, hein. C'était souvent du marbre, de la pierre taillée. Comment Dieu sait retourner les situations. Ce petit coffre qui n'avait l'air de rien, qui n'avait pas assuré la victoire aux Israélites, juste posé devant l'idole, et l'idole était tombée à plat ventre par terre. J'imagine, c'était des gens très superstitieux. Hein. Aujourd'hui, nous, avec notre rationalisme, on aurait cherché une explication. Oh, il y a une petite secousse tellurique, ou voilà, il a trop plu, ou il a fait trop sec, enfin, on trouverait quelque chose. Hein. Mais eux, ils ont bien compris qu'il y avait un message derrière, ils ont commencé à baliser. Mais, et là, c'est là que la Bible est pleine d'humour, ils vont ramasser leur dieu, puis ils vont le remettre debout, comme si un dieu avait besoin qu'on le ramasse et qu'on le mette debout. Il y a une petite pointe d'humour là, où... bon, hein. Le dieu de l'Alliance, lui, il n'a pas besoin de l'aide des humains. Il s'est laissé capturer. Il a laissé capturer le symbole de sa présence. Ça ne le gêne pas du tout. Il est abandonné par son peuple, mais il va savoir parler à sa manière aux païens. Un langage que les païens peuvent comprendre. Parce qu'ils étaient plus intelligents peut-être que les juifs à cet égard. Ils parlaient un langage qu'ils pouvaient comprendre. Le lendemain, non seulement il retrouve Dagon face contre terre, mais cette fois-ci sa tête est cassée. Et ses mains sont détachées à l'humour de Dieu. Ça veut tout dire, hein. Sa tête, les capacités qu'on lui accorde, hein, de penser, de vouloir, et ses mains, ses capacités d'action. Devant Dieu, les idoles, Paul le redira, ne sont rien. Ils perdent la tête, perdent leur capacité d'action par terre. Dieu parle un langage qu'ils peuvent comprendre. Partout où l'arche va déménager après, les gens sont malades. Ils ont toutes sortes de tumeurs. Alors la Bible, suivant les traductions, on parle d'hémorroïdes, mais en fait, on ne sait pas exactement ce que c'était. Hein, j'ai vérifié dans toutes sortes de traductions et de commentaires. En tout cas, c'était du style tumeur. Hémorroïdes peut-être, on ne sait pas. Et on parle aussi d'invasion de souris. dans des pays où il n'y a pas de grands moyens de stocker. C'est pas évident, hein, quand les souris commencent à dévorer les récoltes, etc. Et en plus, il y a quelqu'un qui a fait le rapprochement, et là, ce serait très intéressant de creuser, j'ai pas eu le temps. Tumeurs et souris, ça fait penser à la peste, si vous avez lu Camus. Hein, tumeurs et souris, ça va ensemble. Est-ce que c'était une sorte de peste, avec effectivement des tumeurs, et est-ce que, bon, Dieu évidemment, il savait que c'était véhiculé par les rats. À l'époque, les gens ne le savaient pas. Donc, on se pose la question, est-ce que finalement ces invasions de souris et ces tumeurs seraient pas liées et ce serait une sorte de peste qui se serait répandue sur les gens? On sait pas, mais c'est intéressant. Donc, les Philistins vont déplacer cette arche parce que partout où elle passe, elle sème la maladie, la terreur. Donc, ils vont aller de Asdod à Gath à Écron. C'était les grandes villes que les Philistins possédaient. C'était des commerçants, hein. Les Philistins se rappellent des plaies d'Égypte. Et ils voient tout de suite que c'est l'action de Dieu. Vous savez, parfois, les non-chrétiens ont les yeux plus ouverts que les chrétiens. Ils voient tout de suite que l'action de Dieu est là. Mais alors, ce qui est curieux dans leur réaction, c'est qu'ils ne pensent qu'à le déplacer. Et ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que, en voyant la puissance de ce Dieu, ils pourraient se dire, mais il est plus fort. Il fiche par terre notre idole, deux fois de suite. Partout où on déplace l'arche, il n'y a que des malheurs. Mais ce Dieu est puissant. Ça vaudrait peut-être la peine qu'on s'y intéresse. Non. On cherche juste à se débarrasser des inconvénients. C'est dommage. Ils essaient pas. À côté de ça, pour les Juifs, il y a un message, et pour nous aussi. Nos échecs personnels ne sont pas ceux de Dieu. Le peuple d'Israël était en plein échec spirituel, plein échec personnel, désobéissance, rupture d'alliance, blabla. Mais c'est pas l'échec de Dieu. Même si les choses ne sont pas à la gloire de Dieu, ça n'empêche pas Dieu de se manifester. Même si on entraîne Dieu de force dans nos projets, il n'est pas obligé de nous donner le succès. Il est au-dessus de ça. À la fois ça fait peur, hein, parce que on fait pas bouger le bras de Dieu comme on veut, mais ça rassure aussi. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Et c'est pas par des jours de jeûne et prière, c'est pas par des actions particulières, des pèlerinages, n'importe quoi, qu'on va tordre le bras de Dieu. Si Dieu a dit non, c'est non. Et ça n'entraîne pas un problème pour sa gloire. Dieu fait ce qu'il veut, on ne peut pas le manipuler. Et ça, c'est important pour nous chrétiens, parce que quelquefois, il y a aussi des enseignements, parfois, qui, comme tous les enseignements, ils sont bons d'une certaine manière, mais ils peuvent être dangereux d'une autre. Hein, de dire, persévérez dans la prière, vous aurez ce que vous demandez, demandez, vous recevrez. On oublie quand même qu'il y a, si vous demeurez en moi avant, mais bon. Allez-y, foncez. Alors c'est vrai que c'est bien, et je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, attention de ne pas se laisser tomber dans la passivité. Oh, ben, j'accepte tous les malheurs qui me viennent. Attention, ça, c'est vrai que Dieu n'aime pas ça. Donc, vous voyez, c'est un peu délicat, hein, de savoir où est-ce qu'on va. Mais attention, on ne peut pas tordre le bras de Dieu ni le manipuler. Dieu sait faire réfléchir, même si c'est pas toujours de façon si spectaculaire que là. Mais Dieu va faire réfléchir un petit peu tout le monde. Les Philistins, malheureusement, n'ont pas beaucoup réfléchi. Ils essaient pas de se tourner vers ce Dieu tout-puissant. C'est curieux, je trouve. Alors, l'arche va voyager dans les différentes villes des Philistins. Alors, c'est amusant. Comme toujours, dans l'Ancien Testament, je trouve souvent, on voit des petites allusions un peu humoristiques. L'arche fait sa tournée victorieuse. Vous savez, quand il y avait une guerre, les vainqueurs, avec les dépouilles, c'était très courant chez les Romains, ils faisaient le tour des villes et il y avait des marches triomphales. C'est de là que viennent d'ailleurs les arcs de triomphe. C'est de là que ça vient. Ils passaient, hein, sous l'arc de triomphe, et on a gardé ça, nous, en France. Et il faisait un voyage dans toutes les villes, et là, l'arche va faire une sorte de parodie de la tournée victorieuse du grand vainqueur après une guerre, sauf que les rôles sont inversés. C'est le dieu officiellement vaincu qui fait sa tournée victorieuse de ville en ville. Et à chaque fois qu'il arrive quelque part, Les gens sont morts de peur. À Écron, finalement, ils sont tellement terrorisés, c'est la dernière ville en date, qu'ils cherchent les prêtres, les devins, les magiciens, les astrologues. Oulala, faut qu'on trouve une solution pour ce truc qui nous tombe dessus. Et c'est curieux, la Bible dit qu'ils se rappelaient de ce qui s'est passé en Égypte. Alors que Dieu est obligé de dire aux Israélites, rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte, rappelez-vous que votre Dieu vous en a fait sortir. Eux, il n'y a personne pour leur rappeler, mais ils s'en souviennent. Se souviennent, oulala, si c'est ce Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Vous vous souvenez toutes les plaies qu'ils ont eues en Égypte? Les grenouilles, les temps, l'eau a changé en sang, etc. Ah non, 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 nous ce truc-là, on n'en veut pas. Il faut qu'on trouve une solution. Parce qu'il n'y a plus de ville qui voulait accepter l'arche, évidemment. Et donc, ils convoquent tous les prêtres, les devins, et ils décident, il faut renvoyer cette arche à ses propriétaires, parce qu'elle nous porte trop malheur. Dieu devait rigoler, quand même. Alors, ces gens-là, finalement, ils réfléchissent. Ils se disent, c'est quelque chose de très précieux, donc il faut le mettre sur un char neuf. Respect. Ils avaient réfléchi plus que les fils d'Élie, hein. Faut le mettre sur un char neuf. Et on va prendre, pour le tirer, ce char, des vaches qui n'ont jamais porté le joug. Alors, il y a peut-être des gens qui ont dû dire, mais vous êtes fous, elles vont jamais. Alors, quand on habite à la campagne, on sait que des vaches qui n'ont jamais été sous un joug, elles vont pas aller dans le même sens, hein. Elles vont se débattre, elles vont chercher à partir, et ils font pire. Ils vont laisser leurs petits veaux à l'étable. Bon, là, vous êtes sûr qu'elle n'avancera pas, hein. Les petits veaux qui pleurent misère dans leur étable, et les deux vaches qui, non, c'est pas possible. Eh ben, il dit comme ça, on verra vraiment. Encore une fois, ils mettent Dieu à l'épreuve. Et là, Dieu va se laisser faire, pour leur montrer qui il est. Et vous vous souvenez tous ces versets dans la Bible qui disent « Afin que vous sachiez que je suis Dieu ». Il le fait là, il le fait. Il se laisse pas tordre le bras, mais il sait aussi montrer qui il est, quand les gens sont prêts à écouter, à entendre. Finalement, ils observent les conseils de leurs devins, etc., et avec les coutumes païennes qu'ils ont, tant bien que mal, ils vont même offrir un dédommagement en se disant, bon, il faut quand même qu'on honore ce dieu-là, il faut quelque chose, hein. Alors, ils font des tumeurs en or. Bon, génial, enfin bon, nous, ça nous touche guère, mais eux, ça leur parlait, je pense. Et puis, des souris en or. Et voilà. On voit tout ça, hein, tout ce qu'ils nous ont envoyé, là, les tumeurs, les rats, etc. Bon. Et puis, ils mettent ça comme dédommagement. Un pour chaque ville, mais ils ont fait les choses très bien. C'est chaque ville qui a trinqué. Le chariot neuf, les vaches qui allaitent encore, et les vaches, la Bible dit qu'elles meuglent. Donc elles n'étaient pas contentes du tout. Mais Dieu les a obligées à marcher d'un même pas jusqu'à la frontière. Et elles ont protesté, hein, comme disait le frère là, hein, les animaux parlent, elles ont parlé. Elles n'étaient pas du tout d'accord, mais elles ont été obligées d'y aller. Et elles ont emmené l'arche à la frontière. Pour eux, c'était la preuve qu'il s'agissait bien de l'intervention d'un Dieu puissant. Et c'est pas n'importe qui a suivi l'arche, c'est les princes des Philistins. Ça m'a frappé, ça. Ils étaient très, très intéressés de voir ce qui allait se passer avec ce Dieu-là. Et ils ont marché derrière l'arche, ils ont regardé. Oh, ça c'est pas possible. Elles marchent, elles rouspètent, mais elles vont à la frontière. Donc ils ont bien compris que c'était l'intervention d'un Dieu puissant. Ils ont la preuve de ce Dieu tout-puissant, qui il est, ce qu'il est capable de faire. Et pour des paysans, vous savez, ça parlait, ça. Hein. Et qu'est-ce qu'ils en font? Rien. Ça me choque. Rien. Ils ont la preuve totale. Pour des paysans, c'était la preuve des preuves. Des vaches qui ne retournent pas vers leurs petits, mais qui vont dans l'autre sens. Ils en font rien. Ça, c'est effrayant quand même. Parce que vous savez, quand j'étais petite et que je lisais la Bible, je me disais, ah oh, mais alors tous ceux qui n'étaient pas juifs pouvaient crever dans leur péché, quoi. C'est horrible. Non. Plus on lit la Bible, plus on voit qu'ils ont eu mille et une occasions de savoir qui était Dieu. Mais ils ont fait le choix de dire non et de continuer avec leurs idoles. Les Égyptiens ont eu ce choix. Les Philistins l'ont eu aussi. Là, je crois qu'ils avaient la preuve en or pour dire ce Dieu-là est trop grand, il est trop fort. Même quand son peuple fait n'importe quoi, il continue à glorifier son nom. Alors, l'arche arrive dans une ville à peu près à 25 kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Elle arrive à Beth-Shemesh, ville lévitique. Beth-Shemesh, pardon. Et là, il y a un événement qui va nous surprendre. En attendant, la première réaction, c'est la joie. C'est la joie. Et ils ont la bonne réaction, curieux, mais réaction religieuse. Hein. C'est là qu'on voit les réactions religieuses, c'est pas toujours celles qui engagent le cœur. Mais bon, ils ont la réaction religieuse, on prend le chariot tout neuf, on le coupe en morceaux, on fait un feu et on brûle ces pauvres vaches qu'on tue avant quand même. Et un holocauste, c'est-à-dire burnt offering, complètement l'offrande complètement consumée, offerte à Dieu, on n'en mange pas, on n'y touche pas. Les Lévites, tiens, là ils s'en rappellent, ils descendent l'arche du chariot, ils savent qu'il y a qu'eux qui ont le droit de le faire. Et bah, là, jusque-là, tout fonctionne bien. Mais voilà qu'il y a 50 tomes. Alors là, il y a un problème de traduction. On ne sait pas. J'ai lu plusieurs versions. Soit ils ont regardé l'arche avec mépris, soit ils ont fouillé dans l'arche pour voir ce qu'il y avait dedans. Et ça, c'était interdit. Dans les deux cas, c'était interdit. Et ils le savaient. Il y avait des Lévites pour leur dire. Ils le savaient. 50 hommes ont donc eu exprimé, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la traduction, exprimer du mépris pour le symbole de la présence de Dieu. Ah ! Je pense que quelque part dans leur cœur, ils devaient se souvenir que, malgré l'arche, ils avaient eu une défaite. Et au lieu de rentrer en eux-mêmes et de dire « on a eu une défaite, c'est peut-être à cause de notre cœur », ils se sont dit « cette arche, qu'est-ce que c'est finalement ?» Ils l'ont regardée avec mépris. Et ces 50 hommes-là sont morts. La Bible ne dit pas comment. À Beth-Shemesh, il n'y a pas eu d'examen de conscience. C'est ça qui est étonnant. L'arche revient, on est content. C'est une chose. Le symbole religieux est revenu. Ouh, c'est bien. Mais il n'y a pas eu d'examen de conscience. Aucune repentance. Quand même, ça fait 7 mois qu'elle était en balade, l'arche. Il n'y a pas eu de demande de pardon à Dieu. Seigneur, on n'aurait pas dû emmener ce symbole de ta présence avec les tables de la loi, etc. On n'aurait jamais dû emmener ça en la bataille sans te demander ton avis. Pas de demande de pardon. Et pourtant, c'est une ville lévitique, c'est-à-dire gérée plus ou moins par les prêtres qui appartenaient aux prêtres. Ils savent aussi que l'arche doit être couverte. On ne promenait pas l'arche comme ça. Il était couvert. Ils l'ont pas fait. Donc, on peut parler ouvertement de mépris. Et du coup, quand ils voient les 50 morts, qu'est-ce qu'ils pensent? Ben, ils font pas mieux que les Philistins. Débarrassez-nous de ce truc. La vie avec l'arche, et aussi la vie avec Jésus, ça demande, on l'a entendu avec Monsieur Dubus, hein, une certaine consécration, une mise à part, des choix de vie. C'est exigeant. Et aujourd'hui encore, souvent, on préfère éloigner Jésus. Vous vous souvenez du Gadarénien, je crois, hein? Ah, il a chassé les démons sont partis dans les cochons. D'abord, ils n'auraient pas dû élever des cochons. Et mais, ils ont préféré garder les cochons qu'ils n'avaient pas le droit d'élever et se débarrasser de Jésus, qui guérissait les malades. Non, mais c'est un comble, ça. Est-ce que parfois on n'est pas dans ce cas? On préfère éloigner Jésus ou s'éloigner de Jésus plutôt que de faire ce qu'il nous demande. Et il y en a un qui est un enseignement pour nous, c'est Zachée. Il a préféré se rapprocher et perdre ses idoles, parce qu'il a dû perdre pratiquement tous ses sous, j'imagine. Il a préféré garder Jésus et perdre ses idoles. Mais les pharisiens ont préféré garder leurs idoles religieuses et se débarrasser de Jésus. Et c'est exactement ce qui va se passer avec l'arche. On va chercher une autre victime. Ouhou ! Ils sont même pas dit, si on se repent, ils le savent pourtant, on va pouvoir garder l'arche. Ça sera une bénédiction pour nous. Débarrassez-nous de ça. Comme les autres, débarrassez-nous de Jésus. Il a fait mourir nos cochons. Ah. Bon. Il doit faire mourir nos idoles, alors on va s'en débarrasser, hein. On va s'en éloigner. Dieu a parlé aux Philistins. Ils ont compris, mais ils n'en ont rien fait. Ils ont préféré se détourner de Dieu et continuer à recoller leurs idoles. Et ils ont conclu quelque chose. Ah oui, ils ont réfléchi, les Philistins. Ils ont conclu que vu que la tête et les mains de l'idole étaient tombées sur le seuil, maintenant on enjambera le seuil. Voilà la conclusion. Au lieu de se dire, il y en a marre de ce Dieu qui est incapable, et on va s'attacher au Dieu vivant. Non, puisque sa tête et ses mains sont tombées sur le seuil, désormais on ne marchera plus sur le seuil, on enjambera le seuil. C'est une façon de voir. Ils oublient la vérité fondamentale de l'histoire et eux aussi vont réagir seulement aux inconvénients. Et malheureusement, les Israélites vont faire la même chose. On cherche une victime, on réagit aux inconvénients, on cherche pas du tout s'il faut changer quelque chose dans son cœur. Et ils vont trouver une victime, hein. C'est un lévite qui va être consacré au service de l'arche à Kiryat Yaharim, alors 15 kilomètres au nord-est de Beth Shemesh. Et là, l'arche va passer 20 ans. Apparemment, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de problème. Ce sont un lévite qui est consacré pour s'en occuper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là avaient du respect. Il y a un autre endroit, je l'ai pas vérifié, mais c'est au temps de David, on le verra, je pense, l'année prochaine. Il y a un autre endroit où on voit que l'arche a été en bénédiction, là où elle a été gardée. Et je pense que là, c'est pas dit, mais c'est plus que probable que c'est la même chose. Cet homme avait du respect, donc il n'a pas eu de problème, il n'est pas mort. Les gens autour sont pas morts, personne n'a été malade. Mais il avait du respect pour Dieu, j'imagine. Il s'est consacré au service de l'arche. Donc les païens ont eu la preuve que leur victoire sur Israël n'était pas due à l'infériorité du Dieu d'Israël. Ça, ils ont compris. Infériorité du peuple peut-être, mais pas de leur Dieu. Donc vous voyez que Dieu a préservé sa gloire. Et parfois, il y a des gens qui passent du temps à dire « il faut protéger la gloire de Dieu ». Ouh, ils la protègent très bien. Hein. On n'a pas besoin d'être désagréable avec les gens. Même dans nos échecs, il arrive à révéler sa gloire. Ça ne veut pas dire qu'il faut échouer. Hein. Mais il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Dieu sait se glorifier, même quand son peuple le lâche. Ils avaient essayé de garder l'arche pour prouver la défaite du Dieu d'Israël, mais ça leur a pris 7 mois pour comprendre la solution, les Philistins. 7 mois. Ça a pris encore moins de temps avec l'Israélite. Hein. Quelques jours, et ils s'en sont débarrassés. Mais ils ne l'ont pas adoré pour autant. Comme disait Jésus, ça m'est, il m'est revenu ces mots, hein, quand bien même un des morts reviendrait, ils n'y croiraient pas. Parfois on se dit, ah, si des morts ressuscitaient et revenaient, tous les gens autour de nous, ils seraient croyants. Après ce qu'ils ont vu les Philistins, ils auraient pu l'être. Après ce qu'ils ont vu les Pharisiens, ils auraient pu l'être. Mais ils ont fait un choix. Et Jésus dit bien, quand même un des morts reviendrait, ils ne croiraient pas. Et c'est ce qui s'est produit, Jésus est revenu à la vie. Alors après tous ces événements, Samuel va reprendre les choses à la base, lui. Alors on va lire au chapitre 7, chapitre 7, verset 2. Il s'était passé bien des jours, 20 ans, depuis le jour où le coffre avait été installé à Kiryat Yaharim, coffre ou arche d'alliance, hein, ça dépend des traductions. Alors toute la maison d'Israël, ah tiens, 20 ans, ils se mettent à gémir devant le Seigneur. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, supprimez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Décidez-vous pour le Seigneur et servez-le lui seul, alors il vous délivrera de la main des Philistins. » Ah, 20 ans passent avant que le peuple pense à revenir vers Dieu. 20 ans, vous vous rendez compte? Ça veut dire que les petits-enfants qui ont vécu toutes ces défaites, etc., bah, ils avaient 25, 30, 40 ans, quand finalement ils ont décidé à revenir vers Dieu. 20 ans. Ah, le cœur est endurci, hein. Notre cœur est un cœur dur quand même. Hein. 20 ans avant qu'ils pensent à revenir vers Dieu. La traduction est pas très, très sûre là non plus, on ne sait pas si c'est se lamenter, gémir ou simplement se tourner vers. Mais peu importe. 20 ans pour comprendre que Dieu est la vraie source de la vie. Et que jusqu'à présent, ils avaient bu dans des sources crevassées. 20 ans! On n'arrive pas à le croire. On se dit, ils sont lents à comprendre. 20 ans où ils ont accepté d'être soumis aux Philistins. Alors, bon, là, je pense qu'il n'y a plus personne trop qui a connu la guerre, hein, mais mes parents me disaient qu'avoir les Allemands en France, c'était pas drôle. Quand papa allait travailler, il y avait toutes les patrouilles, parce qu'il travaillait de nuit, dans un journal, donc il avait un permis spécial, et toujours ce poids des patrouilles qui vous arrêtent sans arrêt pour savoir ce que vous faites dehors. Enfin, voilà, faut vivre avec dans un pays occupé, hein. Je pense que nos parents comprenaient mieux ces textes-là que nous. Merci, merci Seigneur pour nous. 20 ans où ils ont accepté d'être soumis aux Philistins. Alors on se dit, mais pourquoi ils sont restés soumis aux Philistins après tout ce qu'ils avaient vu de la grandeur et de la puissance de Dieu? Eh ben moi je dis, il a bien fallu qu'ils y trouvent un intérêt. On garde pas un truc 20 ans si on n'y trouve pas un intérêt. Quand on sait qu'on a un Dieu tout-puissant et qu'on a un prophète qui peut le consulter. Et l'arche qui était là. Donc il a bien fallu qu'ils y trouvent un intérêt. Alors le premier intérêt, ben, c'était d'être comme les autres. Et ça, c'est vrai chez les adultes, c'est vrai chez les ados, c'est vrai chez tout le monde. On n'a pas envie d'être différent des autres. On n'a pas envie. C'est normal. C'est humain. On a envie d'être comme ses voisins, adorer les mêmes dieux, faire les mêmes cérémonies, et satisfaire sa superstition, parce que finalement, avec l'arche, c'était de la superstition. Alors bon, que ce soit une boîte avec deux manches, hein, ou que ce soit un dieu cananéen, voilà. Les voisins, ils ont tout un tas de rites socio-religieux dans l'année, pour avoir des bonnes récoltes, pour assurer le succès, pour avoir de la pluie, pour avoir du bétail qui a plein de petits, pour avoir des beaux troupeaux. Bon, bah les voisins, ils le font, moi je le fais avec eux. Je me souviens de cette histoire d'un missionnaire, enfin d'un chinois converti par des missionnaires, avant qu'il y ait beaucoup de chrétiens en Chine. Et la coutume, je crois, était de mettre des sortes de petits drapeaux autour du champ pour s'assurer qu'il y aurait des bonnes récoltes. Et c'était lié avec l'adoration de je ne sais quoi, mes souvenirs sont flous. Et donc lui, il était chrétien, il l'a pas fait. Ah, mais tous les voisins ont dit, mais alors, à cause de toi, on n'aura pas de pluie, à cause de toi, on aura des mauvaises récoltes. Et il tremblait en se disant, oh Seigneur, pourvu qu'il y ait de la pluie, sinon bah, tout le monde pensait que c'était lui. C'est dur de faire différemment des voisins. Bon, je crois que l'histoire s'est bien terminée, mais ça m'avait frappé ça, parce que souvent on se dit, bah écoute, ils pouvaient adorer leur dieu, finalement c'est leur vie privée. Hein, à notre époque, on parle beaucoup de ça. Pas tant que ça. Hein. À la campagne, s'il y en a un qui fait part, bah, c'est à cause de lui que la pluie n'est pas tombée. Donc, il faut satisfaire ses superstitions, puis faire comme les voisins, tous les rites sociaux. Et puis, il y avait un élément auquel on pense pas beaucoup, ce sont les fêtes des Cananéens, des Philistins, des fêtes orgiaques, c'était des orgies. Et franchement, après ce que j'ai lu dans les livres d'archéologie, nos concerts hard rock ou heavy metal sont des histoires d'enfants de cœur comparées à ce que faisaient les Philistins et les Cananéens. Franchement. Ils avaient cette impression de liberté totale. Pas de contraintes religieuses, pas de contraintes morales. On pouvait faire n'importe quoi. Alors bon, les jeunes, je pense que ça devait pas leur déplaire, cette impression de liberté. Et puis, il y avait aussi ceux qui se contentaient de faire des compromis. Il y a ceux qui allaient hein, jusqu'au bout, mais il y a ceux qui se contentaient de faire des compromis. Oh, allez, il faut pas trop, hein. Faut essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. On est juifs, mais bon, allez, on fait un peu comme les voisins. Ça, c'est confortable. Dieu avait pourtant prouvé sa supériorité, mais bon, c'est bon, le religieux traditionnel était assuré, l'arche était là, blabla, Samuel était là. Donc, allez, on pouvait faire des compromis, et puis on n'avait pas d'histoire. Donc, pendant 20 ans, il y a eu aussi beaucoup de fatalisme qui immobilisait les gens. Bon, allez, on vit comme ça, puis c'est tout. Le diable arrive à nous faire croire que c'est comme ça. L'homme est fragile, il n'arrive pas à suivre les commandements de Dieu, c'est trop dur. Ah, c'est la condition humaine, que voulez-vous? C'est la condition humaine, c'est comme ça. On se laisse mettre en esclavage, on devient dépendant. Je pense qu'il devait être accro, hein, des fêtes cananéennes. On devient dépendant, addict, accro, on baisse les bras. Puis d'ailleurs, vous savez, le mieux, c'est de baisser la barre. On nous l'a dit, nous, en tant que pasteur, plusieurs fois. Il faut baisser la barre. On peut pas baisser la barre, parce que c'est pas nous qui l'avons mise. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est apprendre ou à laisser. On peut pas baisser la barre. On n'a pas le droit. Qui sommes-nous pour baisser la barre? Même si parfois on en aurait envie. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles. Et puis, on pense même plus qu'on puisse faire autrement. D'ailleurs, vous savez très bien ce qu'on dit. Tout le monde le fait. Donc, moi aussi. Alors la Bible ne dit pas ce qui les a poussés à revenir, parce que dans ce contexte-là, finalement, fatalisme, tous les avantages secondaires, la Bible dit pas ce qui les a poussés à revenir vers Dieu, vers son prophète Samuel. Mais je pense quand même que quand on a connu la vraie liberté en Christ, pas la liberté de faire l'imbécile, mais la liberté de pas être accro à quelque chose. Quand on a connu la vraie liberté en Christ, l'amour de Dieu, parce que les dieux cananéens, vous savez, connaissaient pas, hein, le pardon, non plus. Il fallait tout le temps sacrifier, et sacrifier des enfants, des bébés, de temps en temps. La bonté de Dieu, quand on a connu tout ça, la cruauté, les exigences, le mépris de la domination philistine finissent quand même par effacer les avantages. Au bout de 20 ans, ils ont dû faire leur compte et se dire... Les sacrifices d'enfants, la cruauté, toutes les exigences, le mépris de la domination philistine envers les esclaves qu'ils étaient. Enfin, finalement, ils étaient redevables aux Philistins. Ils ont fini par se dire, finalement, on a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais pendant ces 20 ans, Dieu, lui, n'a pas été inactif. Et Samuel non plus. Samuel était prophète, prêtre, juge. Par contre, ce que j'apprécie chez Samuel, c'est sa patience. Il a attendu le moment propice pour intervenir. Ce qu'il dit là, il aurait pu le dire avant. Mais il n'a rien dit. Il a attendu. Il a attendu que les gens soient prêts pour intervenir contre la décadence politique et religieuse du peuple. Et au verset 3 et 4, il dit « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, supprimez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Décidez-vous pour le Seigneur, servez-le lui seul, alors il vous délivrera. » Donc ils avaient dû quand même prendre conscience que ça commençait à être lourd l'occupation ennemie. Et les Israélites supprimèrent les Baals et les Astartés et ils servirent le Seigneur. Waouh ! Il leur a fallu 20 ans, mais ils y sont arrivés. Dieu n'était pas inactif. Dieu a, je pense, travaillé leur cœur pendant ces 20 ans. Ce que je remarque chez Samuel, en lisant, pas un reproche. Moi, sa place, j'aurais râlé. Depuis 20 ans, vous avez laissé tomber le Seigneur. Et maintenant, ça y est, vous venez vous plaindre. Mais vous l'avez cherché, les gars, quand même. Depuis 20 ans. Rien, pas un mot. Et ça me fait penser à cette bienveillance de Dieu. Quand on revient vers lui, c'est pas pour nous disputer. C'est pour ça qu'on peut revenir vers Dieu, quelles que soient les bêtises qu'on a faites. C'est fantastique. Il va pas vous disputer. Ça, c'est formidable. Ils vous disent ce qu'il faut faire, certes, mais il va pas gronder. Pas de reproche. Par contre, il va poser des conditions claires. D'abord, que ce soit de tout votre cœur. On le dit souvent au moment des offrandes, mais c'est important. Dieu nous veut libres, de la vraie liberté. Faire des libres choix. Pas le choix sous la pression des circonstances, mais un libre choix, si c'est de tout votre cœur. Un choix entier, profond et conscient à 100%. Vous savez à quoi vous engagez. C'est important. Pas un choix superficiel, parce que on voudrait vivre autre chose. Il va pas non plus demander des rites de religieux, des gestes extérieurs. Vous allez faire X sacrifices, vous l'avez vous mettez à genoux, vous allez ci, ça. Non. Il demande une chose, de tout votre cœur. Et ça, c'est rudement exigeant. Je réfléchissais hier. C'est rudement exigeant. Je me suis posé la question, est-ce que ça ou ça, est-ce que je le fais de tout mon cœur. Ça vaut le coup de se poser la question, ça fait réfléchir. Ou est-ce que je le fais par habitude? Ou est-ce que je le fais... Vous voyez ce que je veux dire? Ça vaut le coup qu'on se pose la question de temps en temps, est-ce que je le fais de tout mon cœur? Un cœur entier. Je me souviens, à l'école du dimanche, on avait un petit dessin avec le cœur partagé, et on voyait deux petits bonhommes qui tiraient chacun sur la moitié du cœur, et le cœur lourd, etc. Je sais pas si vous avez connu ça à l'école du dimanche. Mais c'est vrai que de tout son cœur, c'est quelque chose. Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu qui ne partage pas. Alors parfois, il y a des gens que ça choque, qui disent « Oh, Dieu partage pas, Dieu est un Dieu jaloux, je croyais que c'était un défaut. » Non, parce que la jalousie de Dieu, elle n'est pas destructrice, elle est constructive, elle est protectrice. S'il est jaloux, c'est parce qu'il sait très bien que si on se détourne de lui, on va être malheureux, on va détruire notre vie, on va détruire nos relations, on va détruire plein de choses. Donc sa jalousie, elle est protectrice. Il y a deux sortes de jalousie dans la Bible, pas jamais l'oublier. La jalousie protectrice et la jalousie destructive. Destructrice, vous savez ce que c'est. Protectrice, c'est parce que on veut pas. Et Dieu ne veut pas que l'être humain se fasse du mal et fasse du mal aux autres. Donc il le veut pour lui, parce que c'est là qu'il sera bien. Ce que Dieu demande, alors, ça va être une vraie repentance. Une vraie repentance. Celle qui pousse à l'action. Alors, qu'est-ce que c'est la vraie repentance par rapport à la fausse? C'est pas qu'elle est fausse, mais il y a la repentance des lèvres. C'est bien, mais... La vraie repentance, c'est celle qui pousse à l'action. C'est pas seulement les pleurs, c'est pas seulement les paroles. C'est celle qui pousse à l'action. Et l'action, là, qui est demandée, elle est claire. Supprimer les dieux étrangers. Il y va pas de main morte. Parce que ça représente, comme je vous ai dit, quelque chose. Ça veut dire, je vais plus faire comme mes voisins. Je vais plus aller aux fêtes. Je vais plus leur faire plaisir en me baladant avec ma petite statuette ou en mettant une sur ma fenêtre. Il y avait tout un tas de trucs, ça se voyait. C'était pas seulement dans le cœur. Supprimer les dieux étrangers. Arrêtez d'adorer ce que les gens autour de vous idolâtrent. Décidez-vous pour le Seigneur et servez-le lui seul. Les conditions sont très claires. et la conséquence de ces conditions, alors il vous délivrera de la main des Philistins. Le problème, c'est qu'il dit pas comment. Et nous, avec notre rationalisme français, je suis sûre que c'est la première question qu'on aurait dit. Comment tu vas faire, Seigneur? C'est pas possible, ils occupent tout le pays, ils ont l'économie en main, ils ont les armes, nous on en a pas, bla bla bla. Il dit pas comment. C'est une question de foi. Mais ce que j'admire, c'est que ces pauvres Israélites, ouf, c'est encourageant, ils obéissent, ils suppriment et ils servent le Seigneur seul. Et ça, c'est formidable. Le verset est simple et court. Les Israélites supprimèrent donc les Baals et les Astartés et ils servirent le Seigneur seul. Donc il doit se passer un petit peu de temps, je pense. Et là, Samuel, il est prêt à intervenir et il dit, rassemblez tout Israël à Mitzpah. C'était un lieu de rassemblement qui avait déjà servi d'ailleurs. Je prierai le Seigneur pour vous. Donc ils ne prient pas tant qu'ils n'ont pas fait quelque chose. Ah, là, nous, on a un petit peu de difficulté, hein, quand les gens s'approchent de Dieu. On voudrait tout de suite, on prie pour eux, qu'ils soient bénis, etc. Et justement, Colin Urquhart en a parlé. Attention, attention, il faut être vrai. Le vrai message, c'est, venez Seigneur de tout votre cœur. Supprimez vos idoles. Repentez-vous. Après, on va prier. Il a reparlé de ça. Est-ce que parfois, on va pas un petit peu trop vite? On peut se poser la question, hein. Donc, ils obéissent. Et alors là seulement, Samuel va convoquer tout le monde. Pour un temps de repentance et de jeûne. Alors ça tombe bien, hein, puisque nous, on va rentrer dans un temps de jeûne, là. Ça tombe pile. Ils se rassemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent devant le Seigneur. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, on va avoir un rite. On n'en avait pas au début, mais on en a là. On ne sait pas exactement, en fait, hein. C'est un travail pénible que de puiser de l'eau. Est-ce que c'est le symbole des larmes de repentance par rapport à leur infidélité? Symbole de purification de la terre qui avait été souillée par l'idolâtrie? Ou simplement du fait de répandre son cœur devant le Seigneur? Ce qui est difficile aussi à faire. Ça demande du travail. On ne sait pas. C'est un peu détroit, probablement. Et puis, ils vont jeûner. Et là, ils vont confesser leurs péchés. C'est là qu'ils dirent, une fois qu'ils ont fait tout ça, c'est là qu'ils dirent, nous avons péché contre le Seigneur. Simplement, c'est court, hein. Nous avons péché contre le Seigneur. Ils ont reconnu. Comme le fils prodigue, quand il revient, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ils le disent. Et c'est là qu'on voit que l'obéissance passe avant le jeûne et la confession. Curieux, hein. Moi, j'aurais peut-être pensé, non. Ils ont d'abord obéi. Après, Samuel a prié. Et ils ont confessé et ils ont jeûné. Donc le jeûne et la prière de repentance ne remplacent pas l'obéissance. Et ça, c'est important. C'est pas parce qu'on dit et parce qu'on confesse. Ce qui est important pour Dieu, c'est l'obéissance. Ça, c'est un gros mot, hein. On n'aime pas ce mot-là, surtout en France. L'important pour Dieu, c'est l'obéissance. Un, ça a été l'obéissance. Ils ont supprimé les idoles. Et après, ils ont prié, jeûné, confessé. Pour ces semaines de jeûne et prière qui sont devant nous, peut-être on peut penser aussi à ça, obéissons d'abord, rétablissons d'abord ce qui va pas. Et après, on pourra jeûner, prier, confesser. La réaction de l'ennemi, bah classique, hein, quand on se rapproche de Dieu, il est pas content. Et qu'est-ce qu'on lit au verset 7 ? Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés. Et les princes de la confédération des Philistins partirent à l'attaque d'Israël. Ah, quand on revient vers le Seigneur, là, l'ennemi se réveille. Il bougeait pas, hein, pendant ces 20 ans, tout s'est très bien passé. Les compromis, tout ça, ça lui allait très bien à l'ennemi. Ah, mais s'il se rapproche de Dieu, là, ça va plus, hein. Surtout qu'eux, ils avaient très bien compris qu'ils avaient un Dieu puissant. Donc, oulala, ça va plus aller. Les Philistins pensent peut-être qu'ils préparent une révolte, mais bon, ils n'étaient pas armés correctement, donc. Mais ils ont peur. Ils ont peur. Cette fois-ci, en plus, les Israélites l'apprirent et ils eurent peur des Philistins. Deux défaites. Tout ce qui s'était passé là, il y a 20 ans, c'était encore dans leur cœur. Voilà, c'est marrant, mais ils n'ont pas le réflexe d'aller chercher l'arche. Ils ont moins appris quelque chose. Par contre, ils disent ce qu'ils auraient dû dire il y a 20 ans. Les Israélites disent à Samuel, « Ne garde pas le silence, crie pour nous vers le Seigneur notre Dieu, pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. Tiens, c'est plus l'arche. Allez, fini ça. La superstition, c'est terminé. Maintenant, on s'adresse directement à celui qui représente Dieu, le prophète. Il a dit, crie à Dieu pour qu'il nous sauve. Même pas que Samuel sauve, mais que Dieu sauve. Ah, ils ont enfin compris. Ça, c'est bien. Et c'est là qu'on voit aussi Samuel qui apparaît dans la lignée des grands intercesseurs, hein, comme Moïse, qui prie pour le peuple. Le peuple a compris que le prophète, il était là pour ça. La dernière fois, il vous avait passé outre. Hein. Juge, sacrificateur. Pour nous, c'est Jésus, le souverain sacrificateur. Et quand l'ennemi est prêt à nous attaquer, alors qu'on vient de se rapprocher de Dieu, alors qu'on a confessé, qu'on a jeûné, qu'on a prié, que l'ennemi vous tombe dessus, à bras raccourcis, eh ben, c'est Jésus. Il faut faire appel à lui. Élie pas silencieux. Il c'est un avocat auprès du Père. Il prend soin de nous. Et Samuel va faire un sacrifice. Tout simple, hein, un petit agneau, encore allaité d'ailleurs, ce qui était rare, qui va être offert à la place des coupables. Et nous, c'est l'image de Jésus qui s'est offert à la place des coupables. Et c'est pendant ce sacrifice que les Philistins vont attaquer. Vous vous rendez compte? Samuel prend un agneau, l'offre tout entier en holocauste, il cria vers le Seigneur pour Israël, et pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour faire la guerre à Israël. Ben tiens, ça vous rappelle rien? Les vieux, entre guillemets, 1967, pendant le Yom Kippour, les ennemis d'Israël ont attaqué, pendant le Yom Kippour, 73, pardon. Moi, il y a les chiffres, on n'est pas copains. Et pendant qu'Israël était occupé, donc était complètement dans la prière, devant le Seigneur, c'est là que les Philistins vont attaquer. Et cette fois-ci, ils n'ont pas l'arche, mais ils ont beaucoup plus. Ils ont rétabli leur relation avec Dieu. Ah, ça les Philistins, ils n'avaient pas pigé, hein. Ils ont rétabli leur relation avec Dieu. Donc ils ont peur, certes, mais ils ont rétabli leur relation avec Dieu. Ils vont pas s'appuyer sur un symbole. Leur cœur est engagé à 100%. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est Dieu qui va les défendre. Et ça, c'est un message pour nous. Chaque fois que notre cœur est engagé à 100%, et parfois je me dis, mais Seigneur, est-ce qu'il l'est vraiment? De temps en temps. Oh là là. Mais bon, le Seigneur est bon, hein. Mais quand on veut vraiment et qu'on se rapproche de lui, alors c'est lui qui nous défend. On n'a pas besoin de tas de symboles, de tas de machins, de tas de trucs. On n'a pas besoin de l'arche qui représente simplement. On a juste besoin de crier à Jésus. Et ça, c'est encourageant. C'est Dieu lui-même qui va les défendre. Il va déclencher un orage épouvantable, tonnerre, et il va en plus ajouter un petit esprit de panique là. C'est bien, hein, il a pas mal de choses à sa disposition, et il les frappa de panique. Et vous savez, on a eu des tas de témoignages au moment de la guerre de 67 en Israël, où ils ont pas compris, d'ailleurs je l'avais lu dans Paris Match, mon père était passionné de ce qui s'était passé à cette époque, donc il s'informait beaucoup. Et on a vu des gens qui ont quitté leurs armes, leurs chars et tout, alors qu'ils avaient très peu d'ennemis en face d'eux. Eux, ils avaient un char, ils avaient des armes, etc. Et ils avaient un petit groupe d'Israélites qui avaient prié. Et ils n'ont pas compris. Les ennemis sont enfuis. Ils n'ont toujours pas compris pourquoi. Dieu envoie aussi un esprit de panique sur l'ennemi. Si nous, on est à 100% avec lui. Les Philistins, cette fois-là, vont être vaincus. Mais c'est pas par Samuel, ni par l'arche. Mais Samuel est un général qui va faire la guerre par la prière. Devinez pourquoi le diable fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher de prier. Essayez. Dites, tiens, j'ai un petit peu de temps, je vais aller prier 10 minutes. Le téléphone va sonner, votre chien va demander la porte, les enfants vont se battre, hop, et c'est fini, l'idée est partie. Il va pas vous laisser prier, c'est clair. Pour prier, il faut se battre. Pour arriver à avoir du temps pour prier. Samuel est un général qui fait la guerre par la prière. C'est pas l'armée d'Israël, elle était pas à la hauteur, je suis sûre qu'elle était même pas très armée. Vous savez, les armées d'occupation en France, elles nous ont pas laissé nous armer, hein. Fallait pas avoir un fusil à la maison, hein. Et c'était pareil, hein. Pas eu d'épée, pas eu de lance, ils ont dû se débrouiller avec ce qu'ils avaient, hein. Mais c'était une stratégie divine. Ils n'ont eu qu'à poursuivre les Philistins dans les collines. Ça, ils savaient faire. Ils couraient derrière. La victoire appartient au Seigneur. Cette fois-ci, ils ont compris, ils ont choisi la confiance et la prière. C'est intéressant, Parce que là encore, on va retrouver dans le texte cette opposition incroyable. C'est marrant d'ailleurs comment Dieu... Moi, j'ai remarqué ça dans notre vie. Avant de le réaliser dans la Bible, je l'avais remarqué aussi dans le ministère. Comment Dieu prend plaisir à réutiliser les mêmes lieux et les mêmes circonstances pour renverser des situations. Ça, c'est rigolo, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'humour de Dieu? Je ne sais pas. Ou c'est une façon d'effacer les choses mauvaises. Parce que vous allez voir qu'ils poursuivent les Philistins, ils les battent jusqu'à Bethkar, et Samuel prend une pierre qu'il place à un certain endroit, et il l'appelle du nom d'Ebenezer, pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. » Et c'est là, à cet endroit-là, qu'ils avaient eu leur défaite. Donc, même lieu, une défaite, même lieu, ils ont la victoire. Les Israélites avaient été défaits par les Philistins la première fois, la deuxième fois c'est les Philistins qui sont défaits par Israël, au même endroit. Dans un premier cas, ils avaient manipulé Dieu en emmenant l'arche, même cas, ils s'étaient repentis et ils avaient crié à Dieu. Les Philistins avaient entendu des cris quand ils étaient autour de l'arche, et là les Philistins avaient entendu qu'il y avait un rassemblement douteux. Les Philistins ont été vaincus. Ont été vainqueurs la première fois, c'était Ichabod, la gloire est partie. Dans le deuxième cas, c'était Ebenezer. Le Seigneur nous a secourus. Vous voyez, c'est bien construit pour montrer au même endroit, avec les mêmes gens, avec une différence d'attitude, les circonstances sont changées. C'est pour ça qu'on peut pas dire, ah ben oui, vous pouvez pas comprendre, c'est tellement fort, l'ennemi est méchant, etc. Dieu, il s'en fiche, même endroit, même gens, même puissance de feu. Mais résultats complètement différents. Pourquoi? Tout ce qui change, c'était l'attitude de cœur. Tout ce qui change pour nous dans notre vie, c'est notre attitude de cœur. Est-ce que c'est 100% pour le Seigneur? Est-ce que c'est j'abandonne les idoles? Est-ce que j'obéis à Dieu? Ou est-ce que je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux? Et puis, c'est la défaite. Donc c'est le cœur qui fait toute la différence. Et Samuel va prendre cette pierre. Alors vous savez, c'est amusant. Il y a un double, même un triple sens à « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus ». Et il y a un commentateur qui dit que les Hébreux aimaient bien les expressions qui avaient deux ou trois sens. Jusqu'ici, géographiquement, effectivement, jusqu'à cet endroit, le Seigneur nous a secourus. Mais c'était aussi jusque maintenant, et probablement pour toujours, hein, il nous secourt. C'était la pensée de Samuel. Mais il y a aussi, il est allé jusque-là, jusqu'à donner sa vie. Il est allé jusque-là. Jusqu'ici, le Seigneur secourut. Jusqu'à ce point-là de donner sa vie, il nous a secourus. C'est trois. C'est frappant, hein. Et ça marche en hébreu. Je veux dire, ça marche pas qu'en français, hein, d'après ce que j'ai lu. Et c'est intéressant de voir que cette richesse aussi dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu fait. Il a aidé les Israélites. Dieu les a secourus quand le coffre a été capturé. Il les a secourus parce qu'il les a aidés à se connaître eux-mêmes, à prendre conscience de leurs péchés et à en connaître les fruits amers. Le secours de l'Éternel ne sont pas toujours du même ordre, les secours de l'Éternel. Ils nous secourent de façon différente. Parfois en nous faisant réaliser ce qui est dans notre cœur, parfois en nous donnant une victoire. Certains sont des actes de miséricorde, d'autres des châtiments, mais avec une fonction pédagogique. Dieu ne nous corrige pas pour le plaisir de nous corriger. Dieu ne frappe pas pour le plaisir de frapper. Quand il nous fait passer par une difficulté, c'est toujours avec l'idée pédagogique de nous apprendre quelque chose. Une pierre, c'est important, hein, de se rappeler la victoire. Et en même temps, ils ont mis cette pierre pour se dire, voilà, le Seigneur nous a secourus. Quand il passait par là, il disait, Ebenezer, pierre du secours. Et j'ai pensé aussi que c'était important pour garder la foi vivante, garder la gratitude, de se rappeler et de raconter entre nous toutes les victoires que Dieu a eues dans notre vie. Vous savez, ça fait du bien parce que ça fortifie. N'hésitons pas à donner tous les témoignages de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et puis, de se rappeler jusqu'ici, le Seigneur est allé jusque-là, il a donné son Fils. Lui, le sacrifice parfait, souverain sacrificateur, bien plus que Samuel, qui pardonne, qui écoute nos prières, qui vient à notre secours. Il est notre pierre du secours sur laquelle l'Église est construite. L'Église a été construite sur cette pierre solide. Et puis, on termine en lisant les derniers versets. Samuel fut juge en Israël tous les jours de sa vie. Il allait d'année en année faire un circuit par Bethel. Il était itinérant, hein? Gilgal et Mitzpah. Il était juge d'Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama où était sa maison. Là aussi, il était juge d'Israël C'est intéressant, même chez lui. Il était toujours. Il n'avait pas de vie, il n'était pas schizo, hein. Une vie chez soi, puis une vie à l'extérieur, non. Chez lui aussi. Il bâtit là un hôtel pour le Seigneur. Un beau début de vie. L'année prochaine, je pense qu'on fera le reste. Samuel et Saül. Ce sera pas très drôle non plus, mais bon. et Samuel et David. Donc, voilà. Il a continué sa vie en tant que juge d'Israël. Et je pense que on a appris des choses avec Samuel cette année. On continuera parce que l'année prochaine, il y aura beaucoup de choses aussi avec Saül. Samuel a continué à servir le Seigneur après cette expérience d'Ébénézer toute sa vie. Toute sa vie, il a été juge. Même chez lui, il était fidèle au Seigneur. Seigneur, que tu nous donnes vraiment d'être aussi des Samuel. Tu as dit, vous êtes un peuple saint, un sacerdoce royal. Seigneur, que nous puissions être ceux qui aident les gens à se tourner vers toi. Que nous puissions avoir l'attitude de Samuel, l'écoute de Samuel, l'attitude de Samuel, sans reproche. Mais Seigneur, que nous soyons clairs et fermes dans notre façon d'annoncer l'Évangile aussi, comme Samuel, de donner les vraies conditions avant de prier. Donne-nous, Seigneur, d'être fidèles à ta parole en toutes choses. Et merci pour l'encouragement. Tu es, Seigneur, cette pierre du secours. Et nous pouvons dire, nous aussi, en tant qu'Église, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus et il continuera à le faire. Amen.